écoutez Radio France Internationale, il est 1h à Dakar, 2h à Paris.
Diane Berger.
Emmanuel Macron reconnaît que la France a commis un massacre à Tiaroy le 1er décembre 1944. À quelques jours des commémorations, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, salue un pas en avant, mais beaucoup reste à faire, selon lui. Deuxième jour de cessez-le-feu au Liban, on écoutera le témoignage d'une habitante de la banlieue sud de Beyrouth, ravie de rentrer chez elle et elle prend la défense du Hezbollah, vous l'entendrez. L'Ukraine face à un dilemme, faut-il baisser l'âge minimum de la mobilisation pour faire face à la Russie? Et puis au Royaume-Uni, le chef des Lib Dems se met au chant de Noël, le politicien veut rendre hommage aux proches aidants. Mais d'abord, c'est l'information de la nuit. Le Tchad met fin aux accords de coopération de défense avec la France. Le ministère des Affaires étrangères tchadien l'a annoncé dans un communiqué publié peu avant minuit. On y lit, je cite, « qu'il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière ». Déclaration quelques heures à peine après le départ du Tchad de Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française. Ce n'est pas une rupture comme au Niger, précise le ministre des Affaires étrangères tchadien. La France reste tout de même un partenaire essentiel. Fin de citation. Le président français Emmanuel Macron reconnaît, lui, que les forces coloniales ont commis un massacre à Tiaroy, au Sénégal, le 1er décembre 1944, quand ils ont tiré et tué des tirailleurs africains qui demandaient leur solde. C'est la première fois que Paris utilise ce terme pour parler des événements. Le chef de l'État français l'a employé dans une lettre adressée hier à son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, qui a accordé une interview à la chaîne France 2. On l'écoute.
Naturellement, on n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais je dois vous révéler que j'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité sur ce douloureux événement de Tiaroy.
Est-ce que vous pensez que 80 ans plus tard, la France cache toujours délibérément une partie de la vérité?
Évidemment, il y a quelque chose qui a été caché. On a régulièrement cherché à mettre une chape de plomb sur cette histoire-là et nous pensons que pour cette fois, l'engagement de la France sera total, qu'elle sera franche et collaborative et qu'elle sera entière aussi dans cette collaboration.
Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Deuxième jour de trêve au Liban et déjà des premiers accrochages. Beyrouth accuse l'État hébreu de plusieurs violations de l'accord de cesser le feu. L'armée israélienne a tiré sur des positions de son ennemi, le Hezbollah, le mouvement islamiste allié du Hamas et de Téhéran. Malgré tout, des centaines de milliers de déplacés ont repris la route vers leur domicile au Liban. C'est le cas d'Alicia, une habitante du Liban d'origine colombienne. Elle habite plus précisément à Daye, la banlieue sud de Beyrouth. À son retour, elle a pu le constater, son commerce a été épargné par les pillages, malgré le chaos qui a régné dans le secteur. Au micro de Joanne Cabasses-Vega, elle estime que c'est grâce au Hezbollah.
L'entrepôt, c'est mon entrepôt. Il était ouvert, mais personne n'y est entré. Personne n'a rien volé. Pas une once. Nous avons une très bonne sécurité ici. Une sécurité assurée par des gens honnêtes et sincères qui s'occupent de nos propres entreprises. Ils ne vous volent pas et nous sommes très heureux. Nous avons ce bonheur. C'est comme si nous étions revenus à la vie. Alhamdoulilah. Je suis excitée et ravie parce que nous avons vécu pendant 60 jours des va-et-vient incessant. Vous alliez d'un côté et il vous bombardait là où vous étiez. Vous alliez de l'autre côté et il voulait vous bombarder là où vous étiez. Il s'en moquait. Ici, ce sont des enfants, des femmes, des personnes âgées. Dieu merci, nous avons cette force.
À Gaza, après plus d'un an de guerre entre le Hamas et Israël, ce nouvel avertissement de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La situation est catastrophique, en particulier dans le nord de l'enclave palestinienne, touchée par de graves pénuries, notamment de médicaments et de nourriture. L'Ukraine demande une réponse ferme face au chantage de Moscou. Je cite les mots du président Zelensky. Vladimir Poutine menace en effet de frapper Kiev avec son nouveau missile Oreshnik, testé pour la première fois la semaine dernière. La Russie qui progresse sur le terrain. Face à sa poussée, les États-Unis recommandent à leur allié ukrainien de baisser l'âge minimum pour la mobilisation militaire de 25 à 18 ans. Alors, est-ce envisageable et qu'est-ce que cela peut changer? Clotilde Dumay a posé la question à Thibaut Fouillet, chercheur spécialiste des questions de défense.
Ça peut être envisageable, mais ce sera difficile, difficile à faire accepter côté ukrainien, et de toute façon, on voit mal comment ça pourrait être fait immédiatement, alors que le précédent abaissement a mis plusieurs mois. Ensuite, est-ce que ça changera quelque chose? Oui et non. C'est-à-dire que non, dans le sens où est-ce que ce serait un élément décisif qui permette aux Ukrainiens d'être sûrs de l'emporter sur les Russes? Ça, c'est clairement non. Par contre, est-ce que c'est décisif pour les Ukrainiens? Oui, pour une simple et bonne raison, parce que cette guerre russo-ukrainienne, comme toutes les guerres majeures qui durent plusieurs années, voit une crise du recrutement, de la fidélisation, de la motivation aussi, et une pénurie d'hommes et de matériel. Donc, dans tous les cas, l'Ukraine est condamnée, parce qu'elle perd des moyens, la guerre faisant, eh bien, à devoir renouveler son vivier d'hommes. Et l'un des leviers, c'est bien entendu cet abaissement. La nouveauté, c'est pas tant la nécessité de ce recrutement, c'est plutôt que ce soit les alliés qui insistent et qui mettent la pression sur les Ukrainiens pour qu'ils aient plus d'hommes pour combattre.
Thibaut Fouillet, auteur de Géopolitique des petites puissances, avec Clotilde Dumay pour RFI. L'ombre d'une ingérence étrangère plane sur la présidentielle en Roumanie. TikTok nie avoir favori dans son algorithme le candidat pro-russe Kalin Georgescu, la surprise du scrutin, arrivé en tête du premier tour dimanche dernier. Les autorités dénoncent également des cyberattaques et la Cour constitutionnelle a donné l'ordre de recompter les voix. Le favori des sondages, Marcel Tsiulaku, a raté la marche du second tour à moins de 3000 voix. Nouvelle manifestation du camp pro-européen à Tbilissi en Géorgie. Un rassemblement de plusieurs milliers de personnes a été dispersé par les tirs de gaz lacrymogène de la police. La fondation WWF poursuit en justice l'État norvégien, sommet de s'expliquer sur sa décision très controversée d'ouvrir une partie de ses fonds marins à l'exploration et l'exploitation minière. Le procès s'ouvre ce jeudi à Oslo, Ottilia Ferret.
L'affaire avait débuté en avril dernier quand le gouvernement norvégien avait annoncé l'ouverture à la prospection minière de 280 000 km² de ses fonds marins. Pour vous donner une idée, ça représente à peu près la moitié de la superficie de la France. ONG scientifiques étaient alors montés au créneau, alertant sur le risque de perturber et même de détruire des espèces et des écosystèmes encore inconnus et potentiellement cruciaux pour la chaîne alimentaire. Il est vrai qu'on connaît encore mal les grands fonds marins, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils abritent une biodiversité riche et rare. Plusieurs centaines d'espèces ont été repérés ces dernières années, dont 90% étaient jusque-là inconnus. En février dernier, c'était le Parlement européen qui avait lui aussi appelé la Norvège à reconsidérer sa décision. En vain. L'État norvégien est bien déterminé à fouiller ses eaux profondes dans l'espoir d'y trouver d'importants gisements de métaux rares qui peuvent notamment servir dans la composition des batteries et d'appareils électroniques. Alors pour l'instant, il est seulement question de prospection, mais ça pourrait conduire le pays scandinave à attribuer des premiers permis d'exploitation dès 2025. Le procès qui s'ouvre ce jeudi est emblématique car la Norvège est l'un des premiers pays au monde à se lancer dans un projet concret de prospection minière. Il pourrait donc établir un précédent et ouvrir la voie à d'autres pays pour exploiter leurs fonds marins. Le procès va durer 5 jours et le jugement est attendu début janvier.
À l'approche du mois de décembre, on les entend de plus en plus. Les tubes pop de Noël au Royaume-Uni, c'est même devenu une sorte de compétition. Tous les ans, les bookmakers prennent les paris sur le single qui sera numéro 1 pendant les fêtes, avec un favori, Last Christmas de Wham, un classique déjà gagnant l'année dernière. Mais cette année, il y a un candidat un peu particulier, le chef du parti libéral-démocrate Emmeline Vint, Ed Davey entre dans la danse avec une chanson engagée.
Il ne chante qu'une phrase de la chanson de Noël Love is Enough, mais Ed Davey apparaît dans tout le clip, mine rayonnante, vêtue d'un pull en jacquard rouge à motif sapin et sucre d'orge. Opération politique pour le chef du troisième parti britannique, les libéraux-démocrates. Peut-être, Ed Davey s'était déjà illustré pendant la dernière campagne avec ses séances d'acrobranche ou de canyoning pour mettre en lumière la pollution des rivières. Mais avec cette chanson, interprétée par le chœur philharmonique des jeunes aidants de Bath, le député souhaite rendre hommage aux 10 millions de Britanniques qui soutiennent un proche malade ou handicapé. « Chacune des secondes qui nous restent en vaut mille autres », dit la chanson. Ce quotidien de proche aidant, Ed Davey le connaît bien. Il s'est occupé de sa mère, décédée d'un cancer quand il était adolescent, et l'un de ses enfants handicapés nécessite des soins en continu. Le patron des Lib Dems saisit donc chaque opportunité pour rappeler les difficultés traversées par les proches aidants et réclamer plus de moyens pour le secteur de l'aide à domicile. Tous les bénéfices de Love is Enough reviendront à des associations de soutien. Emmeline Vint Londres, RFI.
C'est la fin de ce journal. Il est maintenant 1h10 en temps universel, l'heure de Priorité Santé.